Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Grémos sur Radio Audio. Je suis Karine Pétel, la responsable de la Maison du Patrimoine et de la Mesure de la Talaudière. Donc ce musée présente deux collections, une collection sur l'histoire du système de mesure et une collection sur le patrimoine minier. Et pour valoriser donc les archives du musée et rendre ludique l'histoire de la Talaudière, je propose au public des jeux de pistes à réaliser en famille ou entre amis. Un sur l'histoire du parc public, le parc Milliarède, un sur l'histoire du centre-ville et le dernier sur les mines de la Chazolle. Dès que le musée aura réouvert ses portes, parce que pour l'instant, malheureusement, nous sommes fermés suite aux mesures Covid, je vous invite à venir découvrir ces jeux de pistes. Et donc, vous aurez la possibilité de venir retirer le support de jeu à l'accueil du musée. Donc, je vais vous expliquer très simplement et très succinctement comment se déroule ce jeu. Donc, en suivant le plan, vous vous déplacerez de station en station. Et à chaque arrêt, vous aurez un petit contenu historique et un petit contenu iconographique et une énigme à résoudre. Et donc, c'est de ce dernier jeu de piste sur l'histoire des mines de la Chazotte dont nous allons nous inspirer pour vous proposer l'émission d'aujourd'hui. Donc, je suis accompagnée de Jean-Michel Stenner et de Maurice Bedouin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Karine.
Bonjour Karine.
Et donc, l'émission d'aujourd'hui est une balade historique sur l'ancien site minier de la Chazotte et nous ferons plusieurs haltes afin de vous présenter différents lieux emblématiques. Donc, je vais passer maintenant la parole à Jean-Michel qui va vous présenter le premier site, le château de la Chazotte.
Bien, donc, Maurice et Karine, nous sommes ici devant le château de la Chazotte que Maurice a étiqueté comme un exemple d'exploitation minière de l'ère pré-industrielle.
Alors j'irai même plus loin, je dirais de toutes les ères des époques industrielles, depuis l'ère de la mine paysanne, en passant par justement l'ère pré-industrielle de l'exploitation minière, et puis bien entendu l'ère, la vraie ère industrielle axée sur l'extraction du charbon.
Bien, alors ce château, donc on est en fait ici en pleine nature, on est dans un parc, il y a beaucoup d'arbres, bon c'est encore... la fin de l'hiver, donc les feuilles sont rares, mais il y a beaucoup d'arbres. Je pense qu'en été, ça doit être particulièrement agréable. 17 hectares d'arbres et de prés, avec un mur qui fait tout le tour, un mur de pierre, magnifique. Hein, et puis un portail que nous venons de franchir, et à la droite du portail, un étang. Donc on est vraiment en pleine nature. Une grande bâtisse bourgeoise de deux étages, donc côté est, construite en pierre calcaire blanche avec un toit d'ardoise, ce qui n'est pas très fréquent dans notre région. Devant, les communs du château, composés autrefois de la maison du gardien, donc là sur notre gauche, plutôt côté nord, du four à pain, d'une ferme, d'une remise. Aujourd'hui, ces communs accueillent une sorte de pépinière d'entreprise ainsi qu'un restaurant. Donc la pépinière d'entreprise, ça nous amène même jusqu'à l'ère post-industrielle, Maurice.
Et de la réutilisation des terrains de la mine. C'est passionnant ce que nous allons faire ensemble.
Bien, donc Karine, on va écouter ce que tu vas nous dire à propos de ce château.
Alors oui, nous allons revenir quelques centaines d'années en arrière. Donc il faut savoir que ce château a été très endommagé à la Révolution française. Et donc à cette époque, il a été transformé en fabrique. Et puis à la Révolution, il a été partiellement détruit. En 1789, et quelques années plus tard, en 1793, il va même être incendié par les paysans qui sont venus s'emparer des terriers féodaux.
Donc il est pris en fait dans les mouvements sociaux de l'époque révolutionnaire.
Oui, tout à fait, exactement. Et donc, à partir de... en 1800, exactement, donc le château est racheté et reconstruit tel qu'on peut le voir aujourd'hui, par Jovin des Haies, qui est un entrepreneur de la manufacture d'armes de Saint-Étienne et qui sera aussi maire de Saint-Jean-Monfont. Et il va découvrir sur son domaine donc un affleurement de charbon. Et après plusieurs refus, en 1825, il va obtenir la concession d'exploitation des mines de la Chazotte par le roi Charles X. Je vais vous lire un extrait de l'ordonnance du roi, donc publiée en 1825. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui s'y présentent verront, salut. Il est fait concession au sieur Jovin des Haies, d'Escaut, Bastide et Colcombet, sous le nom de concession de la Chazotte, des mines de houille comprises dans les limites ci-après, conformément au plan général annexé à la présente ordonnance. à l'ouest, une ligne droite tirée de la bande de l'étang de Reveux, à l'angle plus au nord des bâtiments de Solémieux. De cet angle, une ligne droite aboutissant à l'angle le plus au nord des bâtiments de Fontvieille. Au nord de ce dernier angle, une ligne droite passant par l'angle le plus au nord des bâtiments des Brosses et se terminant à son intersection avec l'axe du ruisseau d'Onzon. À l'est de ce point d'intersection, le cours du dit ruisseau d'Onzon, jusqu'à l'endroit où il est traversé par le chemin de la Fouillouse à Saint-Chamond, puis marchant vers l'est, le dit chemin jusqu'à son intersection avec la ligne de sud, ladite ligne depuis son intersection avec le chemin de la Fouillouse à Saint-Chamond, jusqu'à sa rencontre avec l'axe du chemin de service qui tend de la Sontainière à la Chapelle du Fay. Au sud de ce point de rencontre, marchant vers l'ouest, l'axe du dit chemin de service jusqu'à l'angle nord-ouest de la Chapelle du Fay. Puis de cet angle, l'ancien chemin qui longe d'une partie au midi, la maison du sieur Faisanas, appelée Gabion, et d'autre part à l'ouest, les maisons Gouillou, du Gabet, jusqu'au point où il coupe l'axe du chemin qui tend du Moncel à Sorbier. De ce point, une ligne droite tirée à la naissance sud de la levée du moulin de Bramfin, sur la rivière d'Onzon. De là, une autre ligne droite terminée à la bonde de l'étang du Moncel. Enfin, de cette bonde, le chemin qui tend à Méon jusqu'à la bonde de l'étang de Reveux, point de départ. Les limites ci-dessus renferment une superficie de 6 km², 6 hectares.
Donc Maurice, Karine vient de nous lire un extrait de l'ordonnance de Charles X.
De 1825.
De 1825, et c'est un document tout à fait passionnant.
Moi je trouve qu'il est savoureux, indépendamment de sa qualité historique, il est savoureux parce qu'il nous montre qu'à cette époque, les concessions qui ont été tracées, les 65 concessions, elles ont été tracées par des lignes. Alors que les propriétés, d'habitude, elles sont tortueuses, elles suivent les anciens chemins, elles suivent les rivières, alors que là, on est rentré dans le monde scientifique. Et ce monde scientifique, eh bien, il est fait par des lignes obliques, par des lignes droites, par des lignes orthogonales. À cette époque, eh bien, on n'avait pas, on n'indiquait pas le positionnement des lieux par des coordonnées Lambert ou ni par des coordonnées GPS. On faisait ainsi, et après tout, ça donne ce type de littérature. On n'a pas souvent l'occasion d'entendre ce type de littérature.
Quand même, je remarque qu'on note en kilomètres carrés, signe que la Révolution française est passée par là.
Et oui, et là aussi, c'est la modernité. Ça aussi, c'est la modernité.
Bon, et en même temps, on ne sait pas ce qu'il y a dessous.
Alors, si on sait ce qu'il y a dessous, parce qu'on est en 1825, et en 1812, Bonnier a publié son atlas. Et si les concessions étaient attribuées, c'est parce qu'on sait qu'il y a du charbon.
Maurice, tu vas nous présenter donc ces concessions et puis un peu l'historique de ce territoire.
Oui, alors c'est une implantation minière qui a commencé autour du château que tu as si bien décrit tout à l'heure. Ça sollicite l'imagination, ce lieu, parce qu'on est là dans un lieu qui nous raconte tous les types d'exploitation minière que le bassin de la Loire a connu. Et même au-delà du bassin de la Loire, on pourrait dire les autres bassins, mais parlons de ce qu'on connaît. Hein. Alors, quand Bonnier écrit le document qui accompagne le plan dont on parlait à l'instant, là, il parle précisément de la Chazotte et du château de la Chazotte où nous sommes. Et il raconte qu'il y voit des grattages, alors le mot est très beau, hein, des grattages superficiels de personnes qui remontent du charbon dans des sacs ou avec des treuils à main. Donc, il faut bien comprendre que ce premier type d'exploitation que je vais appeler la mine paysanne, c'était une exploitation qui relevait de la cueillette et non pas de la production ordonnée. Alors, on prélève ce qu'on peut, on descend autant qu'on le peut. Alors, je crois qu'on peut considérer qu'on ne descend pas plus qu'à moins 12 ou moins 15 mètres. Pourquoi ? Parce que ça s'effondre et il y a des venues d'eau. Alors, pour remonter le charbon, eh ben, il y a plusieurs solutions. Ou bien on a des échelles, et on connaît quelques puits dans le bassin qui s'appelle le puits des échelles. Ou bien par des plans successifs par lesquels on remonte et où on traîne le charbon.
Ce qui suppose beaucoup de terrassement.
Ça suppose qu'on remontait aussi de la pierre et du caillou. Hein. Et bien entendu, c'est une production qui ne va pas chercher beaucoup de tonnage. C'est une production réservée au milieu local, à la clientèle locale. Et il faut imaginer ce paysage dont on se plaint partout. On parlait du forêt, on ne parlait pas du bassin de la Loire. On se plaint partout de ce paysage des mines du forêt, qui est en fait un paysage complètement ravagé, avec des trous mal comblés, et qui n'ont jamais été comblés, qui se remplissent d'eau. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour évoquer la mine paysanne. C'était là.
Est-ce que tu parles, quand tu parles de clientèle, tu penses plutôt aux petits forgerons, aux artisans de ce type ?
Oui, c'était les forgerons. C'était ceux qui travaillaient le métal. Oui.
Pas pour le chauffage ?
Pas à cette époque, non. 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 Voilà. Et donc... à quelle date commence la mine de l'air pré-industrielle ? Ben, je vais vous dire que je choisis la date de 1774. Peut-être que d'autres personnes choisiraient autre chose. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que pendant cette ère pré-industrielle, l'essentiel qui se passe, c'est la remise en ordre juridique. Si on n'était pas passé par cette phase de remise en ordre juridique, tout le reste n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette remise en ordre ? C'est d'abord l'affirmation de l'autorité royale, de la propriété royale sur les tréfonds avec l'arrêt de 1744. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je fais démarrer cette période en 1744.
Tu nous rappelles ce que tu appelles tréfonds ?
Alors, les tréfonds, ce sont tout simplement le sous-sol qui possède des richesses. Ici, c'est du charbon. Ailleurs, ça sera du minerai de fer. Ça peut être du pétrole. Cet arrêt de 1744 met fin, en quelque sorte, aux prétentions des propriétaires de surface et des seigneurs. Désormais, c'est le roi qui possède les tréfonds. Ce qui permet à l'État d'imposer sa loi en s'appuyant sur le contrôleur général. On change complètement d'optique. Parce qu'on se rend compte que, ou la monarchie s'est rendue compte, que le charbon représentait une richesse qu'elle pourrait utiliser pour le développement économique du pays. Le deuxième point extrêmement important, c'est celui désormais, pour l'exploitant, de respecter un embryon de réglementation. Des réglementations techniques sur la largeur des galeries, le boisage, le système de circulation du charbon, l'aération, le drainage de l'eau, etc. Alors de tout cela, malheureusement, sur la Talaudière, nous n'en avons aucune trace, ni dans les archives papier, ni de visu, sauf que, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, dans la fendue Pré-Soleil, quand les engins sont venus décaper le terrain, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé des mines à chambre et piliers. Or, je peux vous assurer, sans en avoir de preuves, qu'autour du château de la Chazotte, il y a bien eu des exploitations par chambres et piliers.
Alors, tu nous rappelles ce que c'est ?
Alors, c'est très imagé comme terme. il faut bien comprendre qu'on faisait le tri du charbon au fond, et que les uns remontaient du charbon, et que les autres faisaient des tas de pierres. Et quand on est au fond, et qu'on est dans la veine de charbon, il est peut-être très intéressant d'utiliser les schistes, d'utiliser les pierres, pour faire des piliers, et avec un boisage rudimentaire sans doute, permettre de soutenir le toit. Hein? Et puis, le troisième élément important de cette mine de l'ère pré-industrielle, eh ben, on en parlait tout à l'heure, c'est l'attribution des concessions par le pouvoir central. Alors, la loi date de 1810, et il est normal qu'à cette époque-là, les deux gros propriétaires fonciers et les deux capitalistes, entre guillemets, qui étaient Jovin de Zay, dont Karine nous parlait tout à l'heure, et Tesna, se portent candidats. Les terriers nous montrent qu'ils sont les propriétaires de ces lieux. Mais il ne suffit pas d'être propriétaire pour pouvoir tirer le charbon. Il faut avoir le droit de concession.
Est-ce qu'on sait depuis quand ils étaient propriétaires? Est-ce qu'ils ont acheté sachant qu'il y avait du charbon, ou c'était propriétaire avant?
Non, ça c'est hérité, hein, c'est hérité de famille. Et alors, qu'est-ce qui se passe devant leur demande? Refus. Refus parce que la cartographie de Bonnier n'est pas encore faite. Donc je vous ai dit, 1812, on devrait dire, en 1813, on va leur accorder ce qu'ils demandent. Pas du tout, parce que les ordonnances ne sont pas prêtes, parce qu'on hésite sur la manière dont il faut procéder. Et écoutez bien, c'est seulement en 1825, comme le lisait tout à l'heure Karine, que Jovin de Zay et Tesna se sont frottés les mains en se disant, ça y est, nous sommes les concessionnaires. Bon. Eh bien, je peux dire qu'à partir de 1825, la mine bascule dans l'ère industrielle. Alors voilà, on rentre dans l'ère industrielle à une époque où le capital, l'argent, va atteindre une importance jamais atteinte dans l'extraction minière. C'est le début du grand capitalisme. La compagnie des houillères de la Chazotte est créée en 1834. C'est une société qui est sous, comme on appelle à l'époque, sous forme de commandite par action, et on y voit quatre noms, quatre gens fortunés, quatre personnes fortunées: Jovin, Décaux, Bastide, Colcombet, la soirée. Il y avait 1800 actions de 1000 francs chacune. Cette société en commandite est transformée en société anonyme en 1843, 9 ans après, et son siège est installé à Paris. C'est très significatif, l'ambition de la société de la Chazotte. Ils veulent capter de l'argent bien au-delà de la région, bien au-delà de Lyon, parce qu'il y a d'autres mines qui vont recruter leurs actionnaires sur Lyon, mais parmi les Parisiens. Et alors, ce que j'observe, c'est que dans les dizaines d'années qui suivent, cet apport d'argent permet à la compagnie d'investir pour grandir en interne. Quand je parle de grandir en interne, ça veut dire augmenter la production. On voit la production gonfler, mais aussi par grandir en externe. Et on voit la compagnie acheter les petites sociétés d'à côté qui ne vont pas lever des actions et qui ne vont pas installer leur siège social à Paris. C'est Becla, c'est Sorbier, c'est la Calaminière en particulier. Alors, comment se réalise l'enrichissement ? L'enrichissement devient le maître mot du capitalisme par individualisation de trois droits, au moins trois droits. Le droit de tréfonds, on a compris ce que c'était. Le droit de concession, on voit bien pourquoi il est nécessaire. et le droit d'exploitation. Et ces trois droits sont éventuellement cumulables, mais pas forcément. Mais les personnes dont on parle, Jovin, Tesna, ils cumulent. Et je peux vous dire que le tiroir caisse, il se remplit. Mais réfléchissons. Peut-être qu'il faudrait dire que s'y ajoute le droit de cultiver les champs, le droit d'installer des fermiers, le droit de faire payer des locations aux fermiers. On le connaît tout ça, c'est banal. Mais je crois qu'un jour, il faut qu'on le dise comment on accumulait du capital. D'où l'enrichissement des familles. Je me demande où est passé cet argent d'ailleurs. La recherche de rentabilité de l'argent d'une façon absolument grandissante. Alors évidemment, cet argent, très concrètement, il était destiné à agrandir l'exploitation, à la moderniser. Alors c'est vrai qu'on observe...
Il était réinvesti.
Il est réinvesti dans la partie technique. Alors c'est vrai, on va le dire tout à l'heure, combien la compagnie d'Achazotte va se doter de beaux outils de travail et aussi ne jamais négliger la sécurité, ce qui n'a pas été toujours pareil dans d'autres compagnies, sur Saint-Étienne notamment. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de voir apparaître la division des tâches avec les premières qualifications. C'est pas le mineur, le pauvre bougre qui descend dans son trou et qui ramasse du charbon. Non. On devient boiseur, on devient électricien, on devient etc. Hein?
Électricien à partir de quand?
À partir de la fin du 19e. Et puis alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais je crois qu'il faut bien cerner cette idée de l'ère industrielle. C'est la volonté de valoriser la production. Si on vend du charbon à l'état brut, on ne fait pas de bénéfice. Si on le valorise, alors là, oui, on en ramasse beaucoup plus.
Oui, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée.
C'est ça. Et c'est le béaba du capitalisme. Avec l'appel de la nomination de Maximilien Évrard en 1852, qui met au point la technique d'agglomération du charbon, pour fabriquer des combustibles destinés aux machines à vapeur. Et vous voyez la systémique de l'âge industriel. Parce que les mines sont là pour faire du charbon. Le charbon fait de l'aggloméré. L'aggloméré rend ce qui est nécessaire pour permettre aux chemins de fer d'avancer. Et les chemins de fer permettent de transporter le charbon sur les centres industriels, etc. C'est ça l'âge industriel. Et puis, dernier élément qui est fondamental dans cette ère industrielle, c'est la nécessité d'étendre le rayon de vente autant que faire se peut. D'abord jusqu'à la Loire, d'abord jusqu'à Lyon, le Rhône, mais au-delà jusqu'à Paris, au-delà jusqu'à Marseille, etc. Hein? Donc, si je résumais, quelque chose qui nous permette de comprendre ce que c'est que l'ère industrielle, à travers l'exemple du charbon, et qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé dans toute notre région de la Loire, c'est que tous les caractères de l'industrie moderne sont rassemblés, des entrepreneurs, on les appelle des entrepreneurs, qui concentrent le capital, qui organisent le travail, qui cherchent à dominer les marchés par l'innovation technique et la maîtrise des transports. Il y a tout. À travers ça, on a tout dit. Voilà. Et alors, suprême perfidie du capitalisme, c'est que la compagnie de la Chazotte trouve une société plus dévorante qu'elle qui arrive à l'absorber. C'est la société de chemin de fer du PLM Paris-Lyon-Marseille avec qui elle a des intérêts croisés. Et c'est là que c'est absolument génial de l'expliquer. Le PLM exploite l'embranchement de la Chazotte.
Il part d'où sur cet embranchement? Du pont de l'Âne?
Il part du pont de l'Âne et il va jusqu'à la Chazotte.
Donc il en reste des traces quand même de cet embranchement.
Je crois m'avancer, mais la voie de chemin de fer qui existe aujourd'hui n'a rien à voir avec celle-ci. Hein, mais...
Et la voie de chemin de fer, c'était le chemin de fer de Sorbier et elle passe par le plat de la Chazotte.
Bon,
Mais parce qu'il y a un embranchement qui part du pont de l'Âne et qui traverse le Molina pour arriver jusqu'ici.
C'est ça, c'est ça. Et c'est celle-ci dont je te parlais. Là. Oui. Donc, le PLM qui exploite l'embranchement de la Chajotte, mais qui exploite surtout cette immense ligne de Paris à Marseille. Donc, cette compagnie du PLM qui a besoin de combustible pour alimenter ses machines à vapeur. Ce combustible, c'est le fameux aggloméré de Maximilien Évrard qui a une forme allongée et qu'on appelle communément ici le saucisson. Il faut savoir que lorsque le PLM a établi un contrat avec la société de la Chajotte, il était dit que la Chajotte devait se soumettre à une certaine livraison en tonnage que je ne connais pas, que je ne vais pas vous dire, chaque année. Et c'était normal, parce qu'il ne fallait pas que les locomotives du PLM soient en manque de carburant, hein, sinon tout était fichu par terre.
On peut quand même rappeler que le PLM n'existe pas quand la Chajotte est mise en train, si je peux me permettre l'expression, et que finalement il y a une opportunité qui se crée, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, mais il y a l'histoire qui avance dans ce paysage industriel qui se transforme.
Voilà, alors c'est là où il y a l'ambiguïté, c'est que la Chajotte avait besoin de valoriser sa production d'agglomérés à travers le PLM, et le PLM a joué un jeu pas très clair, en disant que en ne payant pas ce qu'il devait, les factures qu'il devait à la Chajotte, ce qui mettait la Chajotte en grande difficulté. Et finalement, comme je le disais à l'instant, il y avait un contrat que la Chajotte n'avait pas respecté, eh bien, ils ont été auprès des tribunaux mis en difficulté, et c'est ce qui a permis à la compagnie du PLM de racheter la société de la Chajotte. C'était la seule issue possible pour sauver la compagnie.
Là, on se place donc au début de la Troisième République.
On se passe en 1875. Hein, 1875, rachat de la compagnie de la Chajotte et rachat en même temps des brevets Évrard. Les presses d'aggloméré et l'origine du combustible dont le PLM a besoin. Voilà, et par le fait même, tout d'un coup, le PLM qui ne s'occupait que de la traction va s'occuper de la mine. Par cet achat en 1875, ils deviennent propriétaires de 25 puits. Et puis en 1885, le nombre de puits sur place là passe à 50.
Sur le territoire de la Chajotte.
Eh oui.
Étonnant.
Eh oui.
Nous allons poursuivre notre visite du site de la Chajotte, ancien site d'exploitation minière. Alors, Karine et Maurice, nous sommes maintenant devant la croix dite Saint-Joseph. Alors, l'intérêt de ce lieu, c'est qu'on peut encore repérer d'anciens bâtiments qui ont été réutilisés, mais qui conservent des traces de ce qu'était la mine, le paysage de la mine à l'époque où l'exploitation était en plein travail. Alors, on a devant nous des bâtiments crépis, de taille modeste, d'architecture assez banale en fait. Il demeure de cet ensemble de l'exploitation minière des lavabos, alors, dont on remarque qu'ils sont couronnés par des cheminées d'aération. Vous allez nous en dire quelques mots. Les bureaux, le bâtiment des ventilateurs, le château d'eau un peu derrière, le bâtiment des chaudières et enfin les garages. Alors tous ces bâtiments ont été préservés parce qu'ils ont été réutilisés par des entreprises. La première a été une entreprise de maçonnerie et aujourd'hui, je crois
c'est
que
Eiffage.
C'est l'entreprise Eiffage. Ça a été d'abord Eurovia, entre les deux il me semble, bien Eiffage. Donc Maurice, tu vas nous dire quelques mots sur l'histoire de ce puits Saint-Joseph.
Oui, c'est un puits auquel je suis assez attaché parce que d'abord... Son nom, ça nous permet de comprendre que ces noms étaient choisis par les conseils d'administration suivant le lieu, la topographie, mais aussi selon le calendrier. Or, le puits Saint-Joseph a été commencé, a été foncé le 19 mars 1835, le jour de la Saint-Joseph. Mmh. Voilà, mais il y a d'autres puits qui sont nommés ainsi. Comme tu le disais, Jean-Michel, un site qui a traversé les époques et qui a traversé la période de démolition de tous ces bâtiments. Pourquoi ? Je crois qu'on peut dire que dans les années 70, les entreprises manquaient de locaux. On était dans une période de boom industriel et les entreprises étaient souvent heureuses. Par exemple, dans la vallée du Gé, ça a été le même cas, de trouver des bâtiments qui, après tout, pouvaient faire très bien l'affaire de petites entreprises, hein, de petites usines. Alors, ce puits nous ramène à l'époque ancienne de l'époque napoléonienne. On en parlait tout à l'heure avec le château de la Chazotte. En 1810 et après en 1812 avec le tracé des 65 concessions. Il y a donc eu une concession Tesna du Moncel, une concession du Moncel, d'un seul tenant. En fait, c'était une toute petite concession, 123 hectares, quand on sait que celle de la Chazotte faisait 606 hectares. Voilà, c'est un petit peu la curiosité du découpage de ces concessions, parce qu'en fait, elles étaient prévues d'être vastes pour permettre un gros investissement et trier un petit peu les candidats. L'exploitation ne pouvait devenir rentable sur cette petite parcelle que si les travaux cartographiques d'Antoine Bonnier se révélaient exacts, puisque Antoine Bonnier avait identifié dans le sous-sol, une couche numéro 9 du faisceau Chazotte. Ça a été parfaitement exact.
On rappelle quand même qu'on peut considérer Bonnier comme le fondateur presque de la prospérité stéphanoise au XIXe siècle.
Bien sûr, bien sûr. La cartographie de Bonnier n'aurait pas existé et la qualité de cette cartographie n'aurait pas été exacte. Le bassin ne pouvait pas démarrer aussitôt. Il aurait démarré beaucoup plus tard. La deuxième raison pour laquelle l'exploitation pouvait devenir rentable, c'est que les moyens de transport puissent se mettre en place pour évacuer la production en direction du point névralgique qui était Pont de l'Âne. D'où la construction de chemins de fer locaux qui commence à s'ébaucher. Et un premier réseau qui commence à s'installer, le chemin de fer de Sorbier et la série des embranchements. Bon, on rentre dans la chronologie ?
Oui, oui, bien sûr.
Alors, le puits Saint-Joseph a été foncé en 1835 par Tesna.
Rappelle-nous ce que ça veut dire foncé.
Et il a été percé, creusé. Il est probablement...
Non, parce que normalement, on dit forer pour un puits. dans l'industrie pétrolière.
On fore un puits de pétrole, oui. On fore un puits d'eau.
Et on fonce.
C'est vrai. Et on fonce un puits de charbon. C'est bien, ça.
C'est étonnant comme expression.
Ouais, non, mais tu as raison. C'est intéressant. Notre français est plein de richesses. Oui. Très, très beau, cette langue. Donc, son histoire, elle n'est pas brillante. Hein. C'est une histoire, comme beaucoup de puits, hein, qui a été entrecoupée de toute période d'exploitation, de toute petite période d'exploitation, d'arrêt prolongé, etc. Mais on va en arriver, 1892, on approche de la fin du siècle, il reprend du service en même temps que le puits La Croix. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que les deux puits vont, à partir de ce moment-là, travailler en doublon. Hein, le puits La Croix étant le grand puits d'extraction quand même. Alors, époque-là...
Excuse-moi, on le situe où, le puits La Croix, exactement, par rapport au...
Alors, comme tu le disais tout à l'heure, nous sommes là devant la croix du puits Saint-Joseph. On est au carrefour de deux routes qui étaient essentielles. Aujourd'hui, la rue Jean-Rostand, et puis la route du puits La Croix. Et quand on emprunte cette route, eh bien, effectivement, on passe vers le grand crassier La Croix. Et puis, il y avait là... un formidable chevalement métallique.
En direction du nord, donc, en partant vers le...
C'est peut-être le nord, oui.
Je veux dire, en partant vers le pôle de la viande.
Oui. Alors, le destin des deux puits devient assez commun. Les deux puits sont élargis à 3,50 m de large, parce qu'il fallait faire circuler les berlines correctement. Le puits Saint-Joseph dispose, lui, d'une cage à un étage, alors que le puits La Croix dispose d'une cage à deux étages. Et les berlines sont des berlines, des petites berlines, mais comme on le faisait à l'époque, de 560 litres. Et là, on a exploité la couche de la 15e chasotte. Hein? Puisqu'on ne les nomme pas autrement. Et ça commence, l'extraction, je l'ai dit tout à l'heure, en 1898. Et la différence entre le puits Saint-Joseph et le puits La Croix, c'est que le puits Saint-Joseph est un petit puits qui est habillé avec un chevalement en bois, de petite envergure, hein, habillé en planche pour pas que les poutres en bois du chevalement soient abîmées par l'humidité. Il est resté un puits tout petit, peu profond, 268 mètres, un câble métallique plat qui va durer très très longtemps, une vieille machine d'extraction à vapeur et un ventilateur à vapeur. Autrement dit, une exploitation poussive, alors qu'au début de cette fin du 19e, début du 20e siècle, ben, pensez à Couriot, on rentre déjà dans l'ère moderne de la mécanisation. Alors le charbon brut était ensuite envoyé par chemin de fer sur 3,5 km jusqu'au lavoir de la chasotte. Le problème, c'est que ce n'était pas une ligne droite. Il fallait faire beaucoup de manœuvres pour manipuler les petites berlines là, et les mettre dans la bonne direction. Voilà, alors c'est un peu pour cette raison, compte tenu de toutes ces difficultés, l'ancienneté de la mécanisation... De l'organisation technique, que Saint-Joseph a été reconverti comme puits d'aérage et puits de remblai. Le vrai puits d'extraction, ça a été le puits La Croix.
Alors, quand tu parles de puits de remblai, ça veut dire qu'on y balance des cochonneries dedans?
Oh, il ne faut pas parler comme ça, Jean-Michel. Non, mais non. Ah bon. Alors, on parlait tout à l'heure de l'exploitation par chambre et pilier. Là, on laissait... l'exploitation sans remblaiement, en se disant on l'a soutenu correctement, ça va tenir. On rentre ensuite dans une période où les terrains qui ont été exploités deviennent dangereux, d'abord en cas d'effondrement, mais deviennent dangereux parce qu'il peut y avoir inflammation des gaz dans ces parties qui sont ouvertes. Donc la bonne solution, c'était d'utiliser les schistes, les remblais, et de remplir ce qui était vide par des remblais. Voilà.
Alors Maurice, tu viens de nous montrer ce fameux puits La Croix. Et alors je voulais poser une question à Karine. Donc Karine, dans le musée de la Talaudière, est-ce qu'il y a des traces, est-ce qu'il y a des sources, est-ce qu'il y a des documents qui parlent du Puy-la-Croix ?
Alors oui, nous avons différentes choses. On conserve notamment une série de photos du Puy-la-Croix au moment de son effondrement. Donc on a, je dirais, peut-être 6 photos qui ont été prises à différents moments de son effondrement. Voilà. Et ces photos, elles proviennent d'un fonds qui nous a été donné par Henri Delorme.
Et c'est des photos qui datent donc de 68, 66. C'est quoi la date exacte ?
68, oui.
68. Bon, on va redemander à Maurice. 68, donc.
Oui, le chevalement de Saint-Joseph a été rasé en 68. Celui du Puy-la-Croix, sans doute, en même temps. Et puis, bien dire que sur ce site du Puy-Saint-Joseph, il y avait également des compresseurs, des bâtiments de compresseurs et une lampisterie qui ont été détruits, eux, quand a été élargie la rue Jean Rostand.
Alors, j'ai retrouvé la date où il a été détruit, c'est 1969 exactement. Et il a été mis en service en 1855.
Alors Karine, je crois que tu voulais nous dire à propos de ce puits Saint-Joseph, quelques réflexions sur la salle des pendus.
Alors, on ne trouve pas de salle des pendus sur le site du puits Saint-Joseph, attention.
Ça, c'est une bonne information.
Voilà. Donc moi, le bâtiment dont j'aimerais vous parler, c'est le bâtiment qui est consacré au change des mineurs, donc on appelle le bâtiment des lavabos. Donc c'est une salle où les mineurs se changent avant leur prise de poste et après leur journée de travail. Et donc, comme je disais, il n'y a pas de salle dépendue comme on peut en trouver au Puy Couriau, mais on a uniquement des placards où les mineurs vont entreposer leurs vêtements quand ils remontent de leur journée de travail. Voilà, donc ce sont des sortes de placards où ils vont mettre leurs vêtements. Donc leurs vêtements, après leur journée de travail, évidemment, est pleine de charbon. Mmh. Et donc on a vraiment beaucoup de saleté dans ces lavabos parce que la poussière de charbon va se déposer et va s'accumuler dans ce site-là.
Donc ils remettent les vêtements le lendemain, les mêmes ?
Les vêtements de travail, oui.
D'accord.
Et donc, comme le disait tout à l'heure... Maurice, ses vêtements sont imprégnés de sueur, sont imprégnés de charbon, et donc on n'a pas beaucoup une salle qui n'est pas aérée. Donc clairement, ça sent très mauvais, et les vêtements ne sont jamais secs, ne sont jamais vraiment propres. Voilà, et les lieux sont pleins de charbon.
Insalubre.
C'est ça. Et donc dans ce bâtiment, on trouve aussi les douches. Donc c'est un moment important après la journée de travail. Donc les mineurs se douchent dans cet endroit, et ils utilisent quelque chose de très important pour eux. Le savon est quelque chose de très important. Et donc, ça leur permet de se débarrasser de la poussière de charbon dont ils sont couverts après leur journée de travail. Et il faut savoir que le savon, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été rationné. Et les mineurs donc, ne pouvaient pas se laver correctement. Donc il y a une petite anecdote qui m'a été racontée par Henri Delorme notamment. C'est qu'en 1944, donc un jeune mineur pleurait car il ne pouvait pas se laver correctement après sa journée de travail. Et le lendemain, il devait se marier. Et donc c'était vraiment problématique pour lui. Et donc ses camarades se sont cotisés et lui ont offert du savon pour qu'il soit propre le jour de ses noces. Voilà. Donc c'est une anecdote qui montre bien la solidarité qui pouvait régner dans cette corporation de mineurs. Voilà.
Alors, Karine, parmi les collections que vous détenez, là, vous avez une machine qui permet de fabriquer du savon.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Cette machine, donc, c'est une machine relativement basse, qui représente au sol à peu près 1 mètre carré. Et donc, c'est une presse à savon. Donc on fabriquait ce savon, donc c'était une pâte qui était pressée, et ensuite elle était stockée dans des grands bacs, séchée, puis découpée. Et donc on conserve aussi toute une caisse avec ce savon qui a un aspect un petit peu noirâtre. Oui.
La matière première, c'était ?
Oh, c'est de la soude.
La soude, oui. D'accord. Alors Maurice, puisqu'on parle de lavabo et qu'on est à proximité de la croix, cette croix, elle était quand même emblématique, hein, et c'est un lieu de reconnaissance, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de, comment pourrait-on dire, de prêche. n'est-ce pas? Avec, cette fois-ci, ce ne sont pas des prêtres qui viennent prêcher, mais des syndicalistes. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, tu peux nous rappeler l'importance de ce lieu dans ce sens-là?
Oui, et puis ça permet aussi de redire qu'un puits n'est jamais complètement déclassé. Parce que en 1948, grande surprise, ce puits que l'on croyait être définitivement arrêté reprend du service. Et l'on voit et il reprend du service comme puits d'extraction. C'est pas n'importe quoi, ça, hein.
Pendant la grève ou déjà avant?
Non, c'était prévu dans le plan d'exploitation. Toujours avec une machine à vapeur, toujours avec un câble métallique, comme tout à l'heure, on le disait, pour exploiter cette fois une autre couche de charbon, qui était la 4e et la 14e grunère. Et alors, les mineurs utilisaient le lavabo, dont parlait Karine, ils descendent par le puits. Le charbon remonte par des berlines qui sont basculées dans une trémie, et de la trémie, ça tombe dans des wagons de 10 tonnes qui sont tirés jusqu'au lavoir Chazotte. Et ultime basculement dans le modernisme, lorsqu'en 1954, on démolit le vieux chevalement en bois, on le remplace par un chevalement en béton. L'ancienne machine à vapeur d'extraction, je te rappelle, qui date de 1892, est remplacée par un treuil électrique, et l'ensemble est un ensemble très moderne. Alors, pourquoi tout d'un coup ce revirement? En 1952, avec l'ouverture de la grande fendue Chazotte, tout d'un coup, on estime qu'il y a possibilité de redonner du peps à cette exploitation Saint-Joseph, en évacuant le charbon non plus en surface, mais par le fond, pour ensuite les précipiter dans un bur au niveau du fond de la fendue Chazotte, et faire remonter tout ce charbon par les bandes transporteuses de la fendue Chazotte. Nous sommes dans le troisième lieu de notre itinéraire. Quel est-il?
Alors ici, Maurice et Karine, on est au plâtre de la Chazotte. C'est vous qui allez le présenter. Maurice, tu as dit que c'était le sanctuaire de la reconversion des mineurs et de la réindustrialisation des espaces miniers. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Alors ici, en fait, aujourd'hui, en 2021, on a sous nos yeux de grands espaces avec des plateformes aménagées, une espèce de tissu industriel aéré, d'entreprises qui sont d'un niveau relativement bas, avec des toits plats de couleur claire, on a du gris, du bleu, entouré de parking, le tout bien desservi et relativement proche de la voie de contournement Est de Saint-Étienne, qui constitue une branche de la 72. Alors comment, Karine, imaginez aujourd'hui ce que fut ce paysage à l'époque de l'exploitation extractive sur le plâtre de la Chazotte, c'est-à-dire avant 1968?
Voilà, c'est ça, tout à fait, avant 1868. Donc il faut faire un effort d'imagination parce qu'effectivement, il ne reste aucun des bâtiments qui composaient le plâtre de la Chazotte à cette époque-là. Et donc, il faut imaginer cet espace comme une plateforme technique où l'on traitait le charbon et où se trouvaient de nombreux bâtiments industriels, mais qui ne ressemblent pas du tout à ceux que l'on trouve aujourd'hui. Donc, le premier bâtiment dont je vais vous parler, c'est le bâtiment qui est dédié au criblage du charbon.
Donc, là, pour travailler, on a une photographie aérienne, hein, c'est-à-dire photographie aérienne un peu oblique, qui date des années 60.
Voilà, c'est ça, tu fais bien de le préciser. Effectivement, je vais faire une description donc, de cette photo aérienne qui reprend eh bien, l'ensemble des bâtiments du plâtre. Donc le premier bâtiment, c'est le bâtiment dédié au criblage. Donc le criblage, c'est le tri, le calibrage du charbon. Donc après avoir été stocké dans l'ébène et remonté au jour, eh bien, le charbon est emmené en direction du plâtre pour qu'on puisse pour qu'il soit calibré.
Moi, je précise que la photographie, on la mettra sur le site du Grémos, et c'est donc le bâtiment numéro 1. C'est ça? Non, pas du tout.
Non, c'est le numéro 12.
Numéro 12. Donc on est dans le coin en haut à droite de la photographie, c'est-à-dire grosso modo Maurice au nord-est.
Plutôt sud-est.
Sud-est,
oui. Donc ce charbon, donc quand il arrive sur le plâtre, est emmené au niveau du bâtiment du criblage. Et là, il est passé sur une sorte de grillage au maillage de plus en plus fin pour regrouper eh bien, les morceaux de charbon de même grosseur. Et il faut savoir qu'au préalable, il y a un premier tri qui est réalisé, et qui est réalisé par les jeunes mineurs, donc qui viennent juste d'embaucher, qui ont 14-15 ans, et qui, dans un premier temps, trient le charbon des pierres. C'est un petit peu le métier des clapeuses. Et c'est le premier travail en arrivant à la mine.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ouvriers du jour.
C'est ça. Donc après avoir été passé dans le bâtiment du crible, eh bien, le charbon est envoyé dans un autre bâtiment qu'on appelle le bâtiment du lavoir. Donc c'est le numéro 11 sur le plan, donc qui est un petit peu plus au nord que le bâtiment du criblage. Donc dans ce bâtiment, le charbon est monté est plongé dans un bain qui est composé d'eau et de magnétite. Et ce bain permet d'effectuer un nouveau tri par action de densité. Donc le charbon va flotter et les pierres vont tomber au fond du lavoir. Et le charbon qui est ainsi récupéré va être rincé puis stocké pour ensuite être expédié.
Donc on lave le charbon.
On lave le charbon.
Il reste toujours noir.
C'est un noir propre.
Oh. C'est ça. Et donc il faut savoir que l'eau qui alimente le lavoir provient du grand bassin, donc qui est le numéro 1 cette fois sur la photo et qui se trouve donc au nord-est du plâtre. Et ce bassin est lui-même alimenté par la rivière de Lonzon, donc qui traverse la Talaudière, et donc qui a été canalisé pour alimenter ce bassin-là.
La rivière, elle, on la voit toujours. Par contre, les bâtiments, il n'en reste plus rien du tout.
Non, il n'en reste plus rien. Donc, à proximité donc, de ces deux bâtiments, donc du bâtiment du criblage et du bâtiment du lavoir, on trouve l'usine à boulets. Donc, c'est le numéro 10 sur la photo. Donc, il se situe un petit peu plus à l'est de ces deux bâtiments.
Donc là, c'est un bâtiment plutôt en hauteur.
Oui, c'est ça.
Et on voit une espèce de train qui monte. C'est ça, Maurice ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les trois bâtiments dont Karine parle, triage, lavoir et boulet, fonctionnent ensemble par un système de bandes transporteuses. Il y a une étroite relation, ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre.
Donc ils sont reliés effectivement les uns aux autres par des grandes, des grandes plateformes qui permettent de faire circuler le...
Une bande roulante.
C'est ça. Comme un convoyeur. Et donc dans cette usine, on fabrique des boulets de charbon. Donc les boulets, ce sont c'est de l'aggloméré de charbon. Donc c'est de la poussière qui est mélangée à du brai, donc une sorte de goudron, qui est ensuite moulé pour former ces boulets qui sont très utilisés pour le chauffage domestique. Et donc à la Chazotte, on fabrique aussi un deuxième aggloméré dont Maurice a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est ce que les mineurs appellent familièrement les saucissons. Donc ce sont des cylindres d'agglomérés qui sont très utilisés dans le secteur industriel et ferroviaire. Et c'est Maximilien Évrard donc, qui a mis au point ce brevet et qui va développer cette production à la fin du 19e siècle en créant une usine qui est complètement dédiée pour la production de cet aggloméré. On le trouve au numéro 3, vraiment au centre du plâtre.
Alors une question, ces bâtiments, ils datent tous de la même époque. Il me semble que j'en vois un avec un toit en béton armé, là, le numéro 7, et d'autres qui sont avec des toits en tuiles. Donc il y a peut-être des reconstructions postérieure.
Alors sur un plateau minier, les bâtiments sont toujours en pseudo-démolition et en pseudo-reconstruction. D'accord. Et ce que tu dis à propos des toitures est très révélateur, parce qu'on est passé de la construction en briques à la construction en pierre, à la construction en béton.
Karine, un autre bâtiment alors ?
Alors là maintenant, je vous parlerai plutôt du chemin de fer, parce que à partir du moment où on a réalisé donc le criblage, le lavage, le triage, puis l'aggloméré, eh bien ce charbon, il faut l'expédier, on l'expédie par voie ferroviaire.
Et on voit beaucoup de wagons, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, on voit beaucoup de bennes donc qui traversent le plâtre et qui sont stockées le long des bâtiments, et on a un axe ferroviaire plutôt qui est un axe nord-ouest, voilà, qui permet d'expédier toute la production.
Et ça, c'est l'embranchement dont on a parlé tout à l'heure qui arrive au pont de l'Âne.
C'est ça, tout à fait, effectivement. Et donc c'est le chemin de fer de Sorbier qui va être créé au milieu du 19e siècle, qui va aussi créer un certain essor de la production de la chasse, parce qu'on peut exporter la production beaucoup plus facilement.
D'accord.
Alors au centre du plâtre, on trouve, donc c'est le numéro 8 sur la photo, une grande bâtisse bourgeoise qui, elle, abrite un tout autre type de service, si on peut dire. Ce sont les bureaux, notamment des ingénieurs et des services administratifs. Donc là, certains mineurs appelaient ça, ils m'ont dit, la maison bourgeoise, voilà.
Est-ce que les mineurs vont dans ce bâtiment ? Est-ce que ça leur arrive, je sais pas, pour convoquer par l'ingénieur ou par la direction, est-ce qu'ils arrivent d'aller dans ce bâtiment, puisqu'ils en parlent, d'après ce que tu dis, de façon un peu révérencieuse, un peu craintive peut-être, non ?
Oui, alors effectivement, alors je pense que les mineurs n'ont pas vraiment l'habitude d'aller dans ce bâtiment qui est un peu qui trône un petit peu au milieu du plâtre et qui est un peu le lieu, on va dire, de l'élite. De pouvoir effectivement, et ils vont plutôt eux dans un autre bâtiment administratif qu'ils vont fréquenter régulièrement. C'est le bâtiment des payes, qui est complètement indépendant de ce centre administratif. Le bâtiment des payes donc se situe un petit peu plus à l'ouest, il est séparé donc de la maison bourgeoise par les garages, et il se situe au niveau du numéro 6.
D'accord.
Donc là c'est vraiment un endroit où ils vont se rendre
à quinzaine
pour récupérer leur paye.
Dans le bâtiment 8, il n'y a pas de logement, c'est juste des bureaux.
C'est juste des bureaux. Alors, tu parlais de logements, et des logements, on en trouve sur le plâtre. Il y a des logements ouvriers, et ces logements ouvriers se situent plutôt au sud du plâtre, donc ils sont ici. Au niveau du numéro 15, et un petit peu plus en dessous, vous avez le dispensaire. Voilà, donc là, on a des logements qui vont servir aux ouvriers.
Dispensaire, mais pas hôpital.
Ah non, c'est Saint-Jean-Bonnefond, l'hôpital.
D'accord. Et donc dans le dispensaire, on y va pour les premiers soins.
Oui, on aura l'occasion d'en parler pour les premiers soins. Et puis aussi, je pense que c'était un peu l'UL local des syndicats.
Karine ?
Alors un nouveau bâtiment, et le dernier dont je vous parlerai, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il est effectivement très important, c'est cet ensemble que composent les écuries et la grange, qui se situe à côté du grand bassin, donc au numéro 2. Parce qu'il faut savoir que les chevaux ont été très utilisés au 19e siècle, mais aussi au 20e siècle, pour tracter les bennes au jour et aussi au fond, évidemment. Et pour la petite histoire, les chevaux qui descendaient au fond ne remontaient qu'en fin de vie, et privés de lumière pendant des années, ils finissaient, ils devenaient aveugles. Donc c'est quelque chose d'un petit peu, une histoire un peu triste. Voilà au niveau des bâtiments et de la description du plâtre.